bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici dans cette belle ville de Metz. Merci Philippe pour ta confiance. Merci au Père Pascal pour tout ce travail de fond qui est produit. C'est tout ce que vous faites a été extrêmement précieux. Et il y a 10 ans, quand j'ai un peu moins de 10 ans, quand j'ai écrit le livre Athlète de Dieu, le manifeste sportif et chrétien, je confesse que j'ai beaucoup plongé dans votre site internet et il est d'une exhaustivité incroyable. Donc merci pour tout ce que vous avez fécondé et ça continue. Voilà. Donc Holy Games, c'est une partie événementielle de quelque chose qui avait été déjà créé par le Père Pascal et toutes ses équipes, et je souhaitais le dire. Aujourd'hui, il y a eu cette intuition d'Holy Games pour essayer d'être présent autour des Jeux Olympiques et au-delà. Le congrès mission, ce n'est pas être missionnaire, ce n'est pas prédicateur zélé à enfoncer des portes. Je crois qu'être missionnaire, c'est d'abord être. Et donc, ce n'est pas une question de discours, de langage. On sait aujourd'hui que quand on transmet un message, le non-verbal prime le verbal. Et donc, par rapport à toutes les personnes pour qui l'évangélisation, la mission effraie, je crois que c'est d'abord être d'abord serviteur et être en relation avec la personne que nous rencontrons, et puis exprimer par son corps, et le sport, le christianisme, la religion de l'incarnation et le sport valorisent le corps, c'est d'abord être. Donc je voulais dire ça aussi avant, c'est que parfois, quand on parle de missionnaire, on pense qu'on est des VRP du Christ, et je crois que c'est pas ça, c'est beaucoup plus simple paradoxalement, il faut juste être. Le sport terrain de mission, le titre, la musicalité du titre faisait écho à un petit livre qui était sorti dans les années 50 qui s'appelait France, pays de mission, qui avait nourri pas mal de réflexions pendant plus de 20 ans dans l'Église sur le fait que les structures paroissiales finalement étaient assez peu adaptées, ou en tout cas devaient évoluer par rapport à l'évolution des temps et au signe des temps. Donc le sport, terrain de mission, ça, voilà, ça m'a fait penser à ça. Est-ce que demain, quand on dit sport, terrain de mission, est-ce qu'il faut qu'il y ait des bataillons catholiques missionnaires qui investissent le monde sportif, comme les jésuites avaient investi des terres inconnues? Est-ce qu'il faut s'infiltrer au-delà des lignes adverses pour mieux un jour sortir nos pavillons? Est-ce qu'il faut recréer une jeunesse sportive chrétienne, des mouvements catholiques d'action sportive? Je ne le crois pas. Voilà, je crois que le pape Jean-Paul II disait que le sport était un signe des temps, et il faut aussi s'adapter au signe des temps. Pour moi, la réalité sportive, peut-être qu'on ne sera pas tous d'accord, est de fait une forme un peu de religion laïque ou païenne, avec ses cathédrales, avec ses rites, avec ses rythmes, avec ses ministres, avec ses saints, ses champions, avec ses communautés, avec ses expériences mystiques, avec ses damnations, avec ses joies, avec ses drames. Et le sport, parce qu'il se déploie dans un espace territorial donné, il est sacré, au sens un peu étymologique, parce que des nouvelles règles s'y imposent. Les règles du jeu s'imposent dans ces règles sacrées, et le rôle de l'arbitre n'est pas là pour exclure, mais il est là pour rappeler les règles, pour mieux ensuite accueillir, j'allais dire, le ministre, pour qu'il puisse jouer et participer. Je crois qu'il y a aussi plusieurs demeures dans la maison du sport. Le sport loisir, le sport hygiéniste, le sport collectif, le sport de combat, le sport plus artistique, le sport très confidentiel, roots, le sport évidemment international et ultra professionnalisé, le sport amateur, le sport scolaire. Et donc on est face à, dans le sport, à une réalité qui est extrêmement vaste. Quand on parle de dialogue entre le sport et l'Église, moi je pense qu'il faut plus parler d'une forme de dialogue un peu comme écuménique. Est-ce que c'est un dialogue sportivo-chrétien, ou bien les orthodoxes, mon épouse est orthodoxe, quand les orthodoxes parlent de laïcité, ils parlent d'une forme de symphonie. Et lors du jubilé des sportifs, le pape avait parlé d'une danse aussi pour évoquer de façon suggestive le sport et tous les échanges qui vont traverser le sport. Donc, cette question aussi qui se pose, à qui appartient le sport? À qui appartient la religion? Est-ce que le sport, la religion, ça appartient à ses papes, à ses institutions, à ceux qui sont titulaires des droits, des collecteurs un peu de licences et de redevances? Est-ce que ça, le sport, comme la religion, ça appartient à ceux qui payent et qui commandent, donc les mécènes ou les investisseurs? Ou aux diffuseurs qui vont prêcher la bonne parole sportive ou chrétienne, ou est-ce que finalement le sport comme la religion, ça appartient pas à ses fidèles, tout simplement. Et l'Église, ce sont les baptisés. Ensuite, il y a des médiations, et je crois que le sport, il appartient à ceux qui sont traversés par une ferveur. Et moi, pour ma part, ça va vous surprendre, mais j'ai baigné dans une famille chrétienne, mais au moment où j'ai fait un début de burn-out, et bien c'est le sport qui m'a réévangélisé. C'est là, en côtoyant des sportifs dans un programme à l'ESSEC, à la chaire européenne de marketing sportif, en rencontrant leur humanité, en rencontrant leur exigence de vie, en me confrontant à leur humilité et à leur autodérision, en voyant, en admirant le fait que leur vie était finalisée par des objectifs avec des obstacles, eh bien j'ai été, je le dis, complètement réévangélisé et j'ai mieux compris avec mon humus chrétien aussi la profondeur de la foi chrétienne. Et donc c'est comme si j'étais à côté d'une belle réalité, la réalité chrétienne, l'anthropologie chrétienne, l'école des vertus, etc., que je ne la voyais plus, où elle s'était aseptisée et l'éclairage apporté par les sportifs. Et leur témoignage, ils étaient missionnaires de quelque chose, et bien ils m'ont permis de redécouvrir et d'approfondir ma foi chrétienne. Et donc je suis, enfin, je pense que ce ne sont pas du tout deux mondes qu'il faut opposer, mais ce sont deux mondes qui profondément traversent notre cœur, y apportent de la joie et transforment nos vies. Voilà, et deux mondes qui nous enseignent. De la même façon que Charles de Foucault avait été bouleversé par la foi des Touaregs, moi, je confesse chaque jour être bouleversé par la ferveur des sportifs et on parle beaucoup aujourd'hui de storytelling, mais par l'aventure humaine du sport qui se déploie chaque jour devant nous. Et de la même façon qu'en tant que père, je voyais les deux garçons heureux avec un ballon, je me dis que le bon Dieu, quand il voit ses enfants fondamentalement heureux en pratiquant le sport, eh bien, c'est pas quelque chose de mauvais. Voilà. Et la question, je suis témoin de la joie de mes enfants, et je pense que le bon Dieu est témoin de la joie et de la liesse populaire, comme on l'a vu lors des JO, pour autant que ce ballon ne soit pas une idole, pour autant voilà, que ça ouvre vers d'autres perspectives et d'autres horizons qui ne soient pas auto-centrés, mais qui soient des terrains de communion. Donc pour moi, le sport est une réalité très humaine, extrêmement profonde, qui vient convoquer toute notre personne dans son intégralité, son esprit, son âme et son corps. Il est une forme de miroir grossissant sur notre humanité qui vient malaxer profondément notre patte humaine. Et parce que ça va travailler notre humanité, notre histoire, nos blessures, notre mémoire, il est un chemin vers un au-delà de notre corps, vers un au-delà aussi, au-delà du sport, qui, il me semble, est la transcendance. Et quand on rencontre aujourd'hui des sportifs professionnels, ils nous disent qu'un vestiaire sportif n'est pas un espace laïciste. La question de la transcendance et la question du sens de la vie et de la foi, et de la religiosité, de la piété, avec parfois un mélange de superstition, et quelque chose de très largement partagé dans la communauté des sportifs, un peu comme ce qu'on peut retrouver chez les vétérans qui ont été au feu. Voilà, ils ont vécu une expérience de grande densité qui les a travaillés, qui les a bousculés, et ils savent qu'il y a quelque chose après. Peut-être parce qu'ils ont connu la souffrance, ils ont mis un genou à terre, ils ont connu des expériences de grande densité humaine, ils savent qu'il y a quelque chose. Et puis, je crois que ce qu'on ne dit pas aussi souvent, et ce qu'on doit retrouver, c'est que le christianisme est la religion de l'incarnation, et dans un monde du virtuel, dans un monde de l'idéologie, de la polarisation, on est la religion d'un Dieu qui s'est fait homme, qui a respiré, qui a transpiré, qui a souffert, et qui a touché. C'est-à-dire que ce qui est très beau dans les sacrements chrétiens, il n'y aura pas de confession digitale. Le prêtre sera toujours là pour pouvoir bénir à proximité, pour pouvoir mettre une main sur l'épaule en disant, voilà, tu es restauré, repars attaquer le monde, tu es debout et je te bénis. Mais on sera toujours cette religion de l'incarnation et de la coopération humaine et corporelle. Voilà, c'était un peu une longue introduction avec un mélange de témoignages, mais je vous livre ça. Je vais évoquer un peu ma vision du sport comme une merveilleuse aventure humaine et relationnelle. Peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais il faut toujours, je pense, rappeler ce qu'est le sport et ce qu'il va continuer à devenir, dans ce qu'il y a de meilleur, donc fondamentalement ce qu'il peut avoir de pire aussi. Il est toujours tourné vers l'universel et où qu'on soit aujourd'hui dans le monde. Quelles que soient les barrières linguistiques ou culturelles, entre deux individus, vous lancez un ballon, il se crée quelque chose d'unique. Il se crée un échange. Il y a cette espèce de communion qui va se créer par cette geste sportive. Aujourd'hui, il faut savoir que la FIFA compte plus de membres que l'ONU. Et le sport, dans sa dimension internationale et sa grande diversité, continue à coudre des blocs de civilisation. Quand on se replonge vraiment dans le cœur du sport, il vient toujours convoquer une joie de l'enfance en chacun, une joie de l'enfance qu'il ne faut jamais oublier. Il est loisir, il est gratuité, il est évasion. Même si aujourd'hui, en termes de bande passante médiatique, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler du sport professionnel, mais il va toucher que moins d'1% évidemment de ceux qui pratiquent le sport, qui vivent le sport, qui transpirent le sport. Un peu comme des prêtres ou des religieux ou des prélats ne vont concerner qu'à peine 1% des baptisés dans le monde. Donc il faut savoir qu'il y a une réalité qui va au-delà de ce qu'il peut y avoir, soit d'institutionnel, soit de surmédiatisé. Aujourd'hui, on sait que le sport est mainstream de notre société. Je crois que vous l'avez partagé pendant ces quelques jours. C'est un contenu médiatique et culturel d'une grande puissance. L'ancien directeur de TF1, Patrick Lelay, évoquait le temps de cerveau disponible pour pouvoir mieux tenir une audience et nourrir une audience. De fait, quand on regarde les grandes audiences télévisées, le sport aujourd'hui représente toujours les plus grandes audiences télévisées. Donc il est financé par les diffuseurs et par les publicitaires parce qu'il vient nourrir ce besoin d'aventure, ce besoin de. Ce besoin de combat aussi par procuration. Et puis à travers le sport aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on voit aussi son déploiement culturel. Zidane aujourd'hui est devenu l'égérie de Dior, au même titre qu'Alain Delon. Donc un sportif aujourd'hui devient, au-delà du terrain, juste du sport, alors que c'est son terrain d'excellence, il va devenir. L'ambassadeur d'une marque, l'ambassadeur de sportswear et la culture sport se déploie de façon incroyable. Un héros sportif devient un véritable héros dans son pays, avec demain même une portée politique. Je pense à Djokovic, par exemple, en Serbie. On sait que il pèse au-delà du sport, ou même certainement en Slovénie, Pogacar dans les années à venir, où ce sont des personnalités qui vont incarner politiquement quelque chose de très fort auprès de la jeunesse. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux aussi la dimension évidemment aussi thérapeutique et hygiéniste du sport. Plus on passe du temps sur les écrans émetteurs de lumière et qui nerveusement nous fatiguent, plus on va passer du temps sur les en s'inscrivant dans les marathons extrêmement rémunérateurs ou dans les trails. C'est-à-dire que la courbe du temps passé devant nos écrans, donc ce besoin plus on sera sédentaire, plus on aura un besoin d'être nomade et d'aller expulser tout ça par un mouvement du corps et voire parfois même des choses assez extrêmes, voire addictives. Et c'est comme le reflet aussi d'une polarisation de notre société. Il y a des choses intéressantes dans la société que prouve le sport. Je crois que c'est les familles qui pratiquent le sport, parce que le sport nous déplace, ce sont des familles qui se disputent beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de tension quand on pratique le sport, parce qu'on fait un voyage intérieur. Je vois aussi que le sport, à travers l'apprentissage des règles, est une forme d'antidote à la victimisation. Souvent dans les conférences, je dis aux chrétiens, regardez le talent de Neymar. Neymar, lors de l'avant-dernière Coupe du Monde, en temps cumulé, avait passé 26 minutes de son temps à se tordre de douleur sur le terrain. C'est 26 minutes de son talent que le monde n'a pas pu voir. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui doivent se neymariser et doivent passer leur temps à pleurnicher au risque de rajouter un climat anxiogène au climat anxiogène? Voilà. Et fondamentalement, le sport, je crois, n'est pas dans la victimisation. On se relève et on repart. Et c'est quelque chose qui, d'un point de vue même civique, nous enseigne de façon assez forte. Et puis évidemment, le sport est un lieu de transmission, c'est un lieu d'initiation. Arsène Wenger disait que la première fois qu'on découvre un stade, c'est de l'ordre de l'initiation. Il y a un adulte qui nous amène souvent par la main. Il y avait même un jour un commentateur qui disait, dans l'inconscient collectif, quand on se rapproche du stade, on voit cette lumière, souvent les soirs d'hiver. Moi, j'ai grandi à Rennes. Quand j'allais au stade de la Route de l'Orient, rebaptisé Roazhon Park, c'était comme les bergers qui arrivaient, qui arrivaient à la crèche. Il y a cette lumière et on converge tous, et ça convoque quelque chose de très magique qui s'inscrit durablement, voilà, dans notre mémoire et dans notre corps. On reste toujours fidèle au club de sa jeunesse, quels que soient nos déplacements et notre vie après. Dans cette initiation, que ce soit sur le terrain ou dans la transmission de la passion sportive, il y a toujours aussi un maître et un disciple, et il y a toujours aussi un éducateur, educere, conduire au-delà, hors de, pour le meilleur, sachant qu'on est toujours aussi, je l'évoquerai après, sur une ligne de crête, l'éducateur pouvant devenir un prédateur. Et on sait que le sport est traversé par des forces de prédation. Beaucoup de sportifs, dans la mémoire de leur corps, dans leur histoire personnelle, dans cette tension à vouloir devenir un athlète et donc un ascète, ont été victimes de beaucoup de prédation. C'est quelque chose que l'Église catholique a traité, que le sport traite peut-être imparfaitement, mais on sait que c'est un lieu de grande souffrance, et beaucoup de grands champions subliment ces blessures d'enfance, ces blessures qu'ils ont pu intérioriser dans leur corps. C'est quelque chose qu'il faut connaître. Le sport est un lieu évidemment de communion populaire. On voit une société aujourd'hui très clivée. Moi, j'ai vécu 3 ans à Marseille. La puissance institutionnelle et populaire de l'OM fait que cette ville tient. Cette ville est un chaudron. Dans les travées du stade, il y a une diversité, voilà, sociale, qui fait que c'est un vrai, véritable ciment. Au-delà de la galéjade et du côté pagnolesque, c'est une vraie réalité sociologique. C'est une ville qui tient beaucoup, beaucoup par son club. Et puis, d'un point de vue politique, moi, j'avais été très sensible à ce qu'avait fait le président Obama. Il avait mis en place ce qu'il appelait la dunk diplomatie, c'est-à-dire qu'avant des réunions importantes réunissant des gens avec des opinions bien tranchées, alors c'est très américain, mais pourquoi pas en France demain, il convoquait ces messieurs, ils allaient dans un vestiaire et ils jouaient au basket pendant 3 quarts d'heure. Et ensuite, sortant du vestiaire, douche, on remet nos costumes et on discute. Et la discussion n'était pas la même. Donc il convoque cette âme de l'enfance, et il fait tomber les masques. Peggy avait fait un très beau texte sur la fraternité. Il parlait de l'importance de tomber les masques. Les hommes, souvent les décideurs, jouent des rôles sociaux, un peu comme le salaud sartrien, vous savez, le garçon de café qui joue son personnage. Et le sport, on est percuté dans nos rôles sociaux. Sur un terrain de sport, tout tombe. Et il y a un moment où on parle de cœur à cœur, sans se prendre au sérieux. Et ça féconde quelque chose de très puissant. Je pense qu'en France, on a encore des projets, enfin des progrès à faire sur ce terrain. Le sport aujourd'hui, business, dont on parle beaucoup, hein, c'est la grosse bande passante médiatique. il vient provoquer trois réalités en nous et dans la société. Le sociologue Ballandier avait évoqué un peu les deux caractéristiques de la postmodernité, la vitesse et l'incertitude. Il faut que ça aille toujours plus vite, et pour tenir en haleine, il faut toujours plus d'incertitude. Quand Lyon avait été champion de France 8 ou 9 années d'affilée, il y avait une vraie question en disant que c'était un sujet parce qu'on perdait du coup l'attrait du championnat. C'est le cas avec le PSG, même s'ils nous ont réjouis en Ligue des Champions, mais on s'ennuyait. On le voit Pogacar aussi en cyclisme, on commence à dire il n'y a plus d'incertitude, quoi. Le type est devant, donc comment faire? Donc ce besoin de vitesse, toujours, chasse au record, et avec les excès que ça peut procurer. On voit que le corps des rugbyman aujourd'hui souffre, il y a un vrai sujet, même les footballeurs, on voit qu'on est en surchauffe. L'incertitude, et puis deux choses très puissantes que les publicitaires vont activer, qui sont l'émotion et l'identité. L'émotion, c'est le fait de vibrer par procuration, et on est transporté par le spectacle, qu'on le voit en tribune ou qu'on le voit devant son canapé. Jacques Chirac disait: je suis un sportif de canapé et de bière. Voilà, et sa Corona, il suivait, mais il était plutôt churchillien dans son approche. Et puis l'identité, avec tout ce que ça suppose aussi, un peu de danger. Moi, j'ai beaucoup étudié, en particulier chez les jeunes, ce besoin très vite, cette fascination pour le supportérisme, et en même temps, quelque chose d'assez intéressant, ce besoin de plonger dans l'histoire des clubs. Dans les clubs anglais, dans beaucoup de clubs anglais, quand vous sortez des vestiaires, vous traversez une galerie avec les champions. Et puis il y a cette phrase, avant de rentrer sur le terrain: Do you want to be remembered? Est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi? Est-ce que demain tu veux rejoindre cette galerie? Et pour les chrétiens, cette galerie, c'est aussi tous les saints. Et dans le quotidien de nos vies, est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie aujourd'hui quand tu commences ta journée? Chez les jeunes aussi, je le vois, et j'en parlais avec un évêque qui disait: mais pourquoi tous ces jeunes, ils cherchent le côté tradit, le côté rite, etc. Je leur dis, ils ont besoin de repères. Regardez les jeunes dans les stades, ils cherchent le vintage, ils veulent rechercher le vintage et la tradition des clubs. Et ils veulent tous faire partie des ultras. Le Graal, c'est d'être un ultra. Donc quand on est dans une société un peu liquide, sans repères, le jeune va chercher ses repères. Va chercher ses repères, et potentiellement aussi dans une forme de radicalité dont l'étymologie, c'est l'enracinement. Donc plutôt que de psychiatriser, j'allais dire, cette tension vers la recherche de repères, comment est-ce qu'on l'accompagne? Comment est-ce qu'on l'accompagne? Et moi aujourd'hui, je passe une partie de mon temps, je développe une confrérie en France qui s'appelle les Chevaliers de Colomb, Knights of Columbus, qui a 140 ans aux États-Unis, qui est très pétri d'esprit sportif, avec ce que ça suppose d'autodérision. Ils ont contribué au développement du baseball aux États-Unis. Et aujourd'hui, les codes chevaleresques se retrouvent dans le sport sans le dire. Regardez les blasons des clubs, on se retrouve dans des codes complètement de blason chevaleresque. Dans tous les stades, vous avez dans les vestiaires engagement, dépassement de soi, loyauté, confiance, humilité. On est complètement dans l'esprit chevaleresque, et avec ce que ça suppose aussi, j'allais dire, d'identité dans le vestiaire. On partage les choses dans le vestiaire, et ce qui se vit dans le vestiaire ne sort pas du vestiaire. Donc une dimension aussi, entre guillemets, un peu corporatiste dans la puissance de l'équipe. Dans le développement du sport, il y a quelque chose d'effrayant que je veux vous partager. Moi, j'étais assez ami avec l'ancien DIRCOM du PSG, et le président Nasser était venu voir un spectacle qu'on avait organisé à Notre-Dame. Et après ce spectacle, je lui avais offert une grande affiche de Notre-Dame bleu-blanc-rouge, en disant voilà, bravo pour le PSG. C'était vraiment une volonté de les bénir. Et lui m'avait écrit pour inviter l'archevêque de Paris à voir un match. Et dans son courrier, il avait écrit: nous serions honorés d'inviter notre archevêque. Et ça m'avait frappé. Voilà. Et je m'étais dit, tiens, c'est étonnant, ce qu'il reconnaissait une forme d'autorité de notre archevêque. Et là, j'ai vu que pour le PSG avait le Parc des Princes, sa cathédrale, il avait sa religion, et c'était une sorte de dialogue œcuménique. Et il fallait que l'archevêque de Paris puisse venir les honorer. En discutant également avec le DIRCOM du PSG, il m'avait dit, lui, il venait du sport américain. Quand je suis arrivé au PSG, la fan base du PSG, les fidèles du PSG, c'était 500 000 personnes. Donc sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui peuvent toucher. C'était 500 000 personnes, dont 80% étaient domiciliés en France. Aujourd'hui, la fanbase du PSG, c'est 140 millions de personnes, dont 80% est à l'étranger. Donc en quelques années, de voir à travers les recrutements, j'allais dire, l'emprise de la marque PSG, quasiment de la religion PSG sur les âmes. Je vais plus évoquer après, évidemment, la mission. Une chose intéressante dans la devise olympique, et souvent je le partage, le plus vite, plus haut, plus fort, mais je ne vais pas le développer, nous place toujours sur une ligne de crête. Plus vite, plus haut, plus fort, ça peut être dans tous les excès de la modernité, du transhumanisme et de la folie scientiste. Moi, je suis très effrayé par les Enhanced Games qui sont en train de se lancer aux États-Unis, en Australie. Vous savez, ce sont des jeux améliorés. Où différents gros investisseurs, dont quelqu'un qui s'appelle Peter Thiel, mettent des millions pour tester l'humanité augmentée en disant ben, ça va être le jeu des labos et de la pharmacie. Et ils vont largement médiatiser ça, effrayant. Et là, ils vont dire oui, c'est plus vite, plus haut, plus fort. Regardez les merveilles que la science peut faire. Et ce plus vite, plus haut, plus fort. En même temps, si on se place sur un terrain un peu missionnaire, c'est plus vite parce qu'il y a une urgence à annoncer le Christ. Plus haut, c'est ce besoin aussi aujourd'hui de nous rapprocher de Dieu. René Braque disait nos ancres sont dans le ciel. Et donc, on voit ce besoin aujourd'hui de verticalité par rapport à une horizontalité. Et puis, plus fort, c'est aussi ce besoin en chacun de mettre beaucoup plus de densité dans nos relations à l'autre. Il y avait un petit texte de Simone Veil sur l'attention. Et je crois que le sportif, c'est celui, dans l'action du sportif, c'est celui qui a deux choses. Il est totalement à ce qu'il est. Il ne va pas parler, il ne va pas penser à sa voiture qui est mal garée ou à ce qu'il va faire le soir pendant la soirée. Un sportif dans l'action est totalement présent à ce qu'il est. Et un des gros enjeux du sportif, c'est de trouver cette juste distance entre sa personne, entre son corps, sa mobilisation dans l'action, et soit l'adversaire, soit le ballon. Mais qu'est-ce qui fait que le tacle va arriver au bon moment, cette juste distance? S'il arrive trop tôt, il rate le ballon, il y a faute. S'il arrive trop tard, il y a percussion également. Donc c'est toute la question, le sport nous enseigne la question de notre attention à l'instant présent et de la juste distance par rapport aux autres et par rapport à l'événement. Est-ce que je suis surengagé dans un événement, même émotionnellement, au risque de le percuter et de perdre de l'énergie? Ou est-ce que je suis sous-engagé et ça veut dire que je déserte, quoi? J'avais été frappé un jour de constater que les entraîneurs de l'équipe de France de rugby étaient partis à l'Opéra. Ils avaient une soirée à l'Opéra Garnier et il y avait quatre gros costauds qui tranchaient, qui étaient partis à l'Opéra Garnier pour analyser l'art du porté et pour pouvoir s'en inspirer pour la touche. Donc pour mieux étudier la gestuelle de celui qu'on portait pour qu'il soit. Pour optimiser l'énergie au moment du mouvement et pour pouvoir conserver cette énergie après pour la libération de balle. Et c'était passionnant de voir à quel point il y avait une forme d'humilité du rugbyman qui disait je vais chercher dans l'art une façon de m'inspirer toujours pour être économe de mon énergie dans l'instant. Voilà, et la conserver pour l'action à venir aussi. Sur la question du sport et de la foi, j'ai lu beaucoup de choses, des encycliques, Jean-Paul II a écrit près de 200 discours sur le sport et la foi, mais j'avoue que la déclaration de Thomas Barr le 30 septembre 2022, peut-être que vous en avez parlé à Rome, est une déclaration qui, pour moi, était totalement inédite. Parce que de la part surtout d'un président d'une instance internationale, pour la première fois, il osait parler librement de sa foi et il osait reconnaître, j'allais dire de façon non lyrique et non outrancière ou publicitaire, le juste positionnement du sport et de la foi. Je vous le redis, et je crois que c'est quand même une petite déclaration qui fera date. Le sport et la foi partagent beaucoup de valeurs communes qui nous guident pour vivre ensemble dans la paix avec nos concitoyens. Comme la foi, le sport peut nous guider sur la façon de mener une vie meilleure et ayant plus de sens. Comme la foi, le sport peut faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Comme la foi, le sport nous enseigne l'importance de vivre dans la solidarité et la paix avec nos semblables. Mais le sport ne peut apporter de réponse aux questions ultimes sur le sens de notre existence. Seule la foi peut donner des réponses aux questions réellement existentielles de la vie, de la mort et du divin. Seule la foi peut nous guider à notre acceptation de la transcendance divine. Je pense que le sport, dans ce que je disais, il vient malaxer notre patte humaine, il vient profondément révéler notre humanité. C'est une forme d'apocalypse. Il révèle, voilà, qui nous sommes avec la mémoire de notre corps. C'est quelque chose de très important. Le sport est le dépassement de nous-mêmes, mais la foi est le dépassement du dépassement. Voilà. Le sport est une forme de médiation humaine merveilleuse pour nous ouvrir. C'est comme un sas, un portail pour nous ouvrir à, une autre, à un au-delà de nous-mêmes. Fondamentalement, le sport nous enseigne que l'homme est fait pour la communion et la coopération. Et il est fait pour ressentir cette joie de l'enfance qui monte tout seul dans son cœur. J'accompagne pas mal de cadres professionnels qui sont souvent en souffrance dans leur boulot. Ils ont des problèmes de réorientation et souvent je leur dis quels sont ces moments dans ta vie où tu as ressenti une vraie joie, où tu étais comme aligné. Vous savez, les sportifs et les grands sportifs ils parlent du flow ou disent je suis dans la zone. Voilà. Quels sont ces moments? Essaye de revisiter ta vie pour voir ces moments et à quel moment c'était? Est-ce que c'était quand tu faisais de la recherche? Est-ce que c'était au moment où tu lisais? Au moment où tu animais une équipe, etc. Et ça permet de mieux savoir où est-ce qu'on doit aujourd'hui être planté dans le monde. Saint-François de Sales disait qu'il faut fleurir là où nous sommes plantés. On n'est pas là pour. Moi, je ne suis pas appelé à partir évangéliser à Tombouctou. Je suis là pour faire ce qui me. Essayer de déployer mes petits talents et puis chercher ces moments de joie profonde. Ce n'est pas du plaisir, c'est une joie profonde qui est une sorte de confirmatour qu'on est dans notre zone, quoi. Donc, moi, je crois beaucoup dans cet appel qu'a l'homme et le chrétien à être un disciple de coopération ou de communion, à l'apostolat de l'amitié. Et là, je vais un peu plonger sur la question du sport et de la mission. Parce que c'est pas du tout des armées, de propagateurs de la foi qui vont rentrer dans le monde du sport. Ça passe avant tout par l'apostolat de l'amitié, ce qui suppose beaucoup d'humilité et ce qui suppose beaucoup d'écoute. Si on a deux oreilles et une bouche, c'est qu'on doit écouter deux fois plus qu'on ne doit parler. L'Église dit souvent qu'il y a trois terrains d'évangélisation, un terrain de bonté. Souvent dans les œuvres de miséricorde, des œuvres de consolation, le monde du sport a besoin aussi d'être consolé, des œuvres d'éducation, le monde du sport est un terrain d'éducation d'une grande puissance, donc il y a ce terrain de beauté, il y a un terrain de beauté, donc d'abord de bonté et de charité, ensuite un terrain de beauté, et je crois que c'est dans la culture qui nous élève et qui nous rassemble. On voit que la culture sportive a des choses très très belles. Et d'ailleurs, qui nous fait aussi redécouvrir le besoin de rites, de processions, de grandes communions festives et populaires. Quand on voit aux Jeux Olympiques la rue Lepic avec toute cette foule, on a vu des photos absolument merveilleuses de notre patrimoine magnifié. C'est un terrain de beauté. Et puis, l'évangélisation se déploie sur un terrain de vérité. Le pape Benoît XVI parlait des deux ailes de la foi et de la raison. Et je crois qu'il est important de promouvoir le bien de l'anthropologie chrétienne et puis d'être lucide par rapport aux idoles aujourd'hui qui peuvent nous fasciner. Alors sur la question de vraiment de l'évangélisation dans le sport, pour moi, voilà, je vais mettre un peu le terrain de l'église et le terrain du sport, la cathédrale et le grand stade. À partir du monde de l'église, je sais que le cardinal Bustillo, qui était en Corse, avant il a été à Carcassonne, terre très déchristianisée, et il disait, l'église doit être en sortie. L'évêque, comme les prêtres, ne sont pas là pour recevoir les gens chez eux, ils sont là aussi pour sortir et les visiter. Et lui, je discutais avec lui, disait, la ferveur populaire, les gens, ils sont dans les stades. Et je crois que nos prêtres, nos évêques doivent aimer et bénir cette réalité sportive et donc aller s'inviter dans les matchs, voilà, y aller et puis honorer cette réalité. Quand le président Nasser évoque notre archevêque, ça m'avait interpellé. Voilà. Est-ce que tous nos évêques, tous les curés, tous les prêtres de paroisse qui sont sur le territoire s'invitent pour aller voir les matchs, pour aller bénir? Et on ne mesure pas à quel point le monde sportif est d'une grande bienveillance par rapport à la réalité ecclésiale. Donc là, il y a une vraie audace à être une église de sortie, mais pour bénir et puis pour lire et décrypter aussi cette ferveur populaire. Je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Il y a des choses très pratiques à mettre en place, toujours dans cette logique de bénédiction, dire du bien. C'est de bénir des maillots. Vous savez, on bénit des cartables, on bénit des animaux, et ça attire beaucoup de monde dans nos églises. Et bien, en début d'année, des prêtres qui peuvent proposer à tous ceux qui sont engagés dans le sport de venir bénir des maillots pour bénir les activités sportives, faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes fassent de leur sport une vraie louange et un vrai espace de communion et de témoignage. On a besoin de rites et de rythmes. Je crois que la question du rythme est très importante. Les clubs, le monde sportif est une famille. Je pense que des prêtres peuvent mettre en place peut-être une messe pour le club, prier pour les défunts des clubs, pour les blessés des clubs. Là, dans Alteia ce matin, il y a le témoignage de Rico, l'ancien gardien du PSG qui avait été. Qui est tombé à cheval. Et je me souviens, avec Holy Games, on avait organisé une messe à la Madeleine. Et il y avait eu des reprises médiatiques colossales. Et il y avait une vraie ferveur. Et beaucoup de supporters de base du PSG en avaient entendu parler. Ils étaient venus déposer leurs bougies. On voit aujourd'hui le besoin de piété populaire, de revenir à des fondamentaux. Au moment de la maladie, au moment de la mort, prier pour les défunts. Il y a la chapelle Notre-Dame de Rugby à Rocamadour, c'est un lieu qui est très connu. On sait que les lieux touristiques sont importants, chrétiens et touristiques, c'est une opportunité. Près de 60% de nos fidèles en France ont visité une église l'année dernière. Les sanctuaires sont des lieux de passage, honorer la réalité sportive dans nos églises. Je ne dis pas de systématiser des chapelles de sportifs, mais peut-être que quand il y a des grands clubs, professionnels, avoir dans une église de chaque ville les maillots et puis avoir une intention de prière pour tous les sportifs qui vont défendre les couleurs de notre ville. Ça honore le monde sportif. Et on est dans notre mission d'honorer une très très belle réalité et de dire du bien, de bénir. Je crois que c'est important. Après, dans des rencontres, il y a des sportifs qu'il faut inviter, ou des anciens sportifs, quand ils sont en activité, c'est plus difficile, leur proposer de très librement de témoigner sur leur vie de sportif de haut niveau. Il ne s'agit pas de donner un témoignage de foi, parce que beaucoup de sportifs s'en sentent indignes et ils ne sont pas à l'aise avec le témoignage explicite, mais de témoigner de la réalité qu'ils ont vécue et de leur demander en particulier de raconter un peu le rythme de leur vie. Ils ont aussi un sportif professionnel est dans une bulle très vite, il en souffre. Et puis il y a la question des objectifs, de cette pression du club. C'est toujours des choses intéressantes à partager à des jeunes qui parfois peuvent être un peu bisounours sur la réalité du sport. Et souvent il y a eu des témoignages comme ça d'anciens sportifs qui ont aussi éclairé, donné plus de densité à une jeunesse. Évidemment, si c'est possible, déléguer de façon formelle ou informelle pour des clubs dans une ville un chapelain qui sera disponible pour accompagner avec discrétion des champions, de la même façon que des champions ont des ostéopathes, des chiropracteurs, des naturopathes, etc. Et les champions ont besoin d'avoir des chaplains pour pouvoir nourrir cette vie spirituelle. Mais ça suppose un discernement dans le choix du chapelain. Au moment des Jeux Olympiques, on a eu sur le village olympique des aumôniers français qui n'ont pas tenu leur rôle, qui ont été trop bavards, qui cherchaient des places. Et je crois qu'il est très important pour un chapelain d'être quelqu'un de discret et d'être un homme de confiance. Je parlais de la juste distance. Les hommes, les champions et les athlètes ont des failles, ont des souffrances, ont des pressions. Ils ont besoin d'avoir un espace de réconfort et d'avoir une épaule attentive. Et c'est la mission de ce chapelain. Mais le discernement pour trouver le bon chapelain est important. Et ce chapelain doit être, entre guillemets, un peu légitime. Comme les vétérans se reniflent et savent qu'ils sont crédibles parce qu'ils ont été au feu, il faut trouver des prêtres, voire des laïcs. Dans les aumôneries catholiques, on a des laïcs. Qui comprennent dans leur histoire la réalité sportive et qui trouvent la juste distance, ce qui suppose beaucoup de confiance et de discrétion. Ce n'est pas une information qui doit être publique. Je pense qu'il y a un besoin aussi en France d'organiser des camps, d'avoir peut-être un Clairefontaine ou un Marcoussis chrétien, mais ça suppose non pas pour l'Église d'appréhender la réalité sportive comme quelque chose de récréatif. Mais de se dire, j'allais dire, l'équipement du sportif doit être quasiment un équipement liturgique pour rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire que si demain on crée un camp, j'en discutais beaucoup avec Guillaume Varmuz, on crée des camps de champions, on va jouer avec un beau maillot, avec des bons ballons, le terrain aura les dimensions réglementaires. Et très souvent dans l'Église, on a fait du cheap dans l'équipement sportif. Et je pense qu'il faut retrouver. Pour attirer des jeunes et pour leur transmettre et les accompagner dans ce terrain de la joie du sport, il faut avoir une exigence liturgique sur l'équipement sportif et sur la façon de jouer. Il faut pas juste un éducateur qui aime comme ça un peu le foot et taper dans la baballe. À travers nos réseaux et à travers l'expression de besoins qu'on aura l'humilité d'émettre dans la famille. Dans tout ce qu'on représente dans la famille catholique sportive, on saura trouver, j'en suis sûr, des anciens champions, des anciens athlètes qui seront crédibles sur le terrain de l'enseignement sportif et de l'accompagnement de la foi. J'ai appris que la non-expression du besoin stérilise la charité. C'est-à-dire que si on est tous convaincus qu'il y a quelque chose de puissant à faire sur le terrain du dialogue entre le sport et la foi ou de l'évangélisation à travers le sport, à travers Holy Games, à travers les équipes de la pastorale du sport, etc. Il faut que si on a un projet, on puisse avoir l'humilité d'exprimer un besoin pour que l'autre puisse y répondre. Et moi, je pense personnellement qu'il y a de la place, le scoutisme se développe énormément, pour avoir peut-être un lieu, voilà, on voit qu'il y a des abbayes qui cherchent à être vendues, etc. Un lieu, une sorte de flagship. Qui soit un lieu un peu emblématique où on pratiquera du sport de façon, en cherchant l'excellence, de façon quasi professionnelle pour des jeunes chrétiens et en attirant aussi des personnes qui sont loin de la foi, parce qu'il ne s'agit pas juste de nourrir un petit club de bons cathos pieux, mais d'avoir toujours cette tension pour accueillir toujours des gens loin de la foi. La course des clochers à Paris a eu un gros rayonnement l'année dernière. On s'est appuyé sur des structures plutôt chrétiennes, les écoles privées, etc., et au-delà. Et je sais que la messe a touché beaucoup de cœurs. Après une course, il y a une forme de joie, on est comme restauré, et il s'est passé des choses très très belles. Donc, faire une course de clochers, en plus l'église a un beau patrimoine. Ce n'est pas des choses qui sont si compliquées à organiser, mais encore, voilà. Et c'est quelque chose qui peut être d'une grande fécondité pour créer de l'unité dans les paroisses, pour créer de l'unité dans un diocèse, et puis pour attirer des nouvelles personnes vers la joie chrétienne. Donc là, c'était un peu en partant de nos communautés chrétiennes, comment des petites idées, hein, mais des choses qui existent, comment faire pour être missionnaire et puis pour honorer le monde du sport. Et puis après, auprès des sportifs, auprès du monde sportif, avec beaucoup de délicatesse, et moi je me méfie vraiment beaucoup d'une forme de prosélytisme un peu agressif, qui peut être un peu néo-évangélique. Vous voyez, on a de façon un peu publicitaire, on a nos grands champions, et puis le pauvre Neymar, je vais encore le citer, mais c'est Jésus à fond. Je pense que c'est pas ça. Voilà, ça va faire un effet waouh, mais ça va pas durer. On est sur le temps long, de la confiance et de la coopération. Ce que fait Monseigneur Guebuillard avec des pèlerinages à Rome, c'est quelque chose, voilà, en toute confidentialité, c'est quelque chose d'important. Le pèlerinage, la dévotion, c'est quelque chose à Lourdes, il y a aussi quelque chose à faire. Il y a des communautés cloîtrées aujourd'hui qui portent le monde, et il y a des communautés cloîtrées qui sont prêtes à prier pour des grands champions dans le secret des monastères. Si on en rencontre, on peut leur dire, avant une compétition, ils sauront que tous les jours, leur nom sera cité à la messe, que voilà, leur équipe sera portée avant un grand événement. C'est très facile à faire. Je réfléchis, on avait voulu le mettre en place avant les JO, avant des grandes compétitions sportives, on peut mettre en place des plateformes de parrainage de champions par nos jeunes. Voilà, que chaque joueur de l'équipe de France de foot, on propose à un jeune de prier pour lui, de décrire à Clairefontaine, et puis on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je crois au pouvoir de la prière et de la bénédiction. Voilà. Et on les remercie pour l'exemple qu'ils nous donnent. Enfin, et on est sur du temps long. Et ils y seront sensibles. Voilà. On n'est pas des pleurnichards, on n'est pas rétracté d'un point de vue victimaire, mais la réalité sportive nous réjouit. Et on veut la bénir et on veut essayer de l'accompagner. Il y a des choses très simples aussi à faire dans les clubs, toujours pour les honorer. On a mis ça en place à Paris et avec nos groupes de chevet de colon et à Vannes. C'est-à-dire qu'on est bénévole pour accompagner des personnes en situation de handicap ou de précarité dans le stade à travers les accès PMR. Et on prend contact avec le club, on achète parfois des places, et puis on amène des personnes dans le stade. C'est tout simple. Les clubs aussi, parfois, sont aussi en demande. Ils ont aussi besoin. On travaille avec le Paris FC. Ils disent, ben, moi, j'ai besoin de. Enfin, le Paris FC veut honorer tous les bénévoles d'associations caritatives. Ce n'est pas totalement désintéressé parce que, un, ils veulent remplir aussi leur stade et ils veulent promouvoir leur marque. Mais on a mis en place aujourd'hui de façon assez informelle auprès de plein d'associations caritatives des programmes où à chaque match, il y a 20 ou 30 personnes de ces associations bénéficiaires et bénévoles qui vont au stade. On l'a fait avec Apprentis d'Auteuil, avec la Croix-Rouge, avec le réseau Espérance Banlieue. Et voilà. Et ça crée un lien, ça crée une histoire, ça nourrit quelque chose d'important. Et je suis sûr que à travers ces petits projets, à travers la relation interpersonnelle, il se passe des choses. Mais il se passe ces choses qui vont se passer, c'est le témoignage de Philippe tout à l'heure. On n'est pas dans une planification stratégique. L'Esprit Saint a plus d'imagination que nous. Donc, moi, je ne crois pas à une planification stratégique. C'est pas une agence de com et d'influence qui va chercher de la part de voix chrétienne dans le monde du sport. Il faut honorer et ensuite, à travers la confiance qui va se nouer entre des acteurs chrétiens et des acteurs du monde sportif, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Voilà. Et en conclusion, pardonnez-moi, j'étais assez un peu long. Je pense que le chrétien, fondamentalement, doit aimer le monde, profondément aimer le monde pour le servir et faire en sorte que le Christ, à travers notre pauvre carcasse, puisse transformer ce monde à travers nous. Et parce que les gens ont un besoin de consolation, un besoin de communion extrêmement fort. Mais pour aimer le monde, il faut le connaître. Et pour aimer le monde sportif, il faut le connaître. Et donc, on a besoin aujourd'hui un peu d'apôtres, on parle de la pastorale, d'apôtres qui aiment profondément avec humilité la réalité sportive. est la clé de l'évangélisation. Benoît XVI le disait, l'évangélisation se fait toujours par attraction et jamais par prosélytisme. Donc ça va être notre autodérision et notre enthousiasme qui vont faire qu'à un moment donné, les gens vont être un peu touchés en disant, tiens, cette personne, j'ai plutôt envie de le suivre, ou en tout cas, j'ai envie de m'intéresser au carburant intérieur dont il brûle. Et ça nous échappe. Dans le mouvement sportif, comme dans notre vie de tous les jours, le sportif, il n'a pas le temps de se regarder dans une action. Il est toujours tourné vers l'action à venir. Et souvent, je parlais de la victimisation, il peut y avoir aussi une tentation un peu bourgeoise du gâteau à se regarder jouer. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se regarder jouer. Je pense qu'on est des êtres de communion et de relation. Et notre principale arme, c'est est-ce que par l'attraction, on arrivera à être témoin de quelque chose qui nous dépasse? Et puis notre arme la plus puissante, ça sera l'enthousiasme. Je parlais tout à l'heure de la ferveur. Et souvent, je dis à des gens dans le sport, mais tu es enthousiaste, mais c'est l'enthousiasme le plus puissant. Et ils me disent, oui, je suis enthousiaste. Et là, je leur dis, mais l'enthousiasme, l'étymologie d'enthousiasme, c'est le transport divin. Tu es transporté par une réalité au-delà. Et tu es un chrétien qui s'ignore, et tu es même plus chrétien que les chrétiens qui peuvent être aseptisés et endormis, alors que l'enthousiasme est la révélation du transport divin. Donc voilà ce que je voulais partager. Je vous remercie. Une petite initiative qu'on a mise en place. On a diffusé très largement une prière du supporter et une prière du sportif. Je vous en ai mis des petits exemplaires. Il y a un petit côté, c'est des prières qu'ils disaient dans les années 50-60. Il y a un petit côté rétro, mais je vois que chez les jeunes, voilà, ça touche parfois les cœurs. La prière du supporter, on demande au Seigneur de protéger nos champions des blessures et des contusions. Et puis on prie aussi de soutenir notre équipe de manière civilisée avec le respect de l'équipe adverse et des supporters. Donc voilà, c'est une prière. Il ne s'agit pas de reprendre la prière, mais en tout cas de reprendre l'initiative et d'adapter la prière du supporter et la prière des sportifs. Merci de votre attention.